Père nous parle au travers d'images. Et dans la Bible, on retrouve assez fréquemment donc, des arbres pour nous faire comprendre donc, de façon métaphorique certaines réalités spirituelles. On va donc partager ensemble sur trois arbres plantés au bon endroit. D'où l'importance d'être, comme dit l'expression, au bon endroit, au bon moment. Une bonne chose. Une chose également est certaine, c'est que ce matin, vous êtes au bon endroit pour avoir un temps particulier dans la présence de notre Seigneur. Ô Seigneur, que nous ne puissions pas justement nous conformer, nous habituer à ta présence. Ce que nous désirons, c'est vraiment réaliser que nous avons accès au trône de Dieu, parce qu'un jour, Dieu a donné son Fils Jésus qui est allé à la croix du calvaire et donc qui nous ouvre cette voie royale. Alléluia. Donc, être planté au bon endroit, être là au bon moment. Et au travers de cela, qu'est-ce que je veux partager avec vous? C'est que Dieu poursuit un but en chacun d'entre nous. Il veut notre croissance. Il veut que nous puissions nous développer. Si quelqu'un, ce matin, se dit... Ben, en fait, ça y est, je suis arrivé, ça me suffit, ma vie chrétienne me suffit actuellement. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de nous voir nous développer afin que nous devenions donc ces arbres plantés au bon endroit. Amen. Et quand on parle d'arbres, évidemment, on pense à cette image dans ce jardin, lors de la création, un jardin fertile. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de l'abondance, on va le voir ensemble. Si je vous parle d'arbres plantés près d'un courant d'eau, qui est planté près d'un courant d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Pour les lecteurs assidus que vous êtes de la Bible, vous me dites que ce passage se trouve... Attention, il y a un piège. Alors du coup, ceux qui allaient se lancer se sont arrêtés juste à temps. Certains ont dit le psaume... Job, voilà, c'est bien, hein, c'est bien. Quelqu'un a dit Jérémie. En fait, c'était le piège. Parce que c'est le même passage, vous allez voir combien il y a de similitudes dans la parole de Dieu avec ce même message. C'est parce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre voilà, quelque chose de tellement important. Donc Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » et dont l'Éternel est l'espérance. Alors si cet homme, il fait cela, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit et nous disons... Amen pour la parole, que Dieu soit glorifié. Ici, on voit qu'il y a un arbre, et cet arbre, il est planté. Il est planté donc près d'un courant d'eau, on va voir voilà, les caractéristiques de cet arbre. Mais ce que l'on voit tout d'abord, c'est que ce passage, il s'inscrit donc dans la continuité, parce que juste avant que le Seigneur puisse dire « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel », juste un peu avant, il dit « Malheur à l'homme qui se confie à l'homme ». Mais donc, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Donc, l'homme qui est béni, c'est celui qui se confie en l'Éternel. C'est celui qui a bâti sa vie sur l'Éternel. C'est celui qui a confiance en l'Éternel. Quand on parle de confiance, on parle également d'assurance. On est assuré que le Seigneur est proche de nous. Et comme il est proche de nous, le Seigneur nous bénit. Alléluia. Il y a des bénédictions auxquelles, que nous voyons jour après jour. Ne serait-ce que le souffle de vie. Ce matin, j'ai entendu beaucoup ont pu s'exprimer dans ce sens en disant « Seigneur, je te remercie pour le souffle de vie ». C'est la réalité. Et on doit remercier le Seigneur pour le souffle de vie. Mais il y a également des bénédictions que nous prenons hein, simplement comme ça, nous ne nous réfléchissons pas. Mais le Seigneur est un Dieu qui aime nous bénir. Parce que c'est un Dieu d'abondance. Amen. Mais c'est pour celui, cela est réservé à ceux qui se confient dans l'Éternel. Et dans l'Éternel... et l'espérance. On sait que la plus grande des bénédictions, c'est Dieu lui-même. Je le disais en introduction, Je ne sais pas vous, hein, mais quand je considère qu'un être aussi insignifiant que moi, en plein milieu de ce monde, de milliards de personnes, je peux m'approcher du grand Dieu de l'univers. Celui qui crée le ciel, la terre, celui qui nous a créés, celui qui a créé toutes les choses bonnes pour chacun et chacune d'entre nous, j'ai un accès auprès de ce Dieu qui est extraordinaire. Amen. Et si quelqu'un ce matin ne connaît pas Dieu, ou alors une certaine connaissance de Dieu, je vous invite à le rechercher de tout votre cœur. Et dans la Bible, il est dit que celui qui s'applique à le rechercher, le Seigneur se laissera absolument trouver. Amen. Est-ce qu'il y a ce matin certains au milieu de nous qui ont trouvé Dieu? On est 7-8. Pas mal, hein, le pourcentage. Ah, on vous a pris un peu au dépourvu. Mais c'est comme ça, parce qu'à un moment donné, le Seigneur s'est révélé à nous. Sa présence, la bénédiction, c'est sa présence. Ce matin, moi, je me suis réjoui d'être là, dans la communion fraternelle. Et on l'a dit en introduction, c'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction, dans la communion fraternelle. Et le Seigneur, par son esprit, est là. Il a parlé au travers de chants, au travers de ce qu'on a pu exprimer. Le Seigneur, par sa présence, il vient nous renouveler nos forces, nous donner également du courage, parce qu'il faut du courage pour affronter la vie. Il faut du courage pour affronter les difficultés qui sont là, on va le voir un peu plus loin, hein. Les difficultés, elles viendront, hein. Elles sont là peut-être, mais une chose est certaine, c'est que la présence de Dieu, c'est un privilège. La confiance à l'Éternel, c'est également une source de bénédiction. C'est de se confier en l'Éternel. Je dis, Seigneur, je veux me confier en toi, même si je vois le contraire. Alors là, c'est délicat, c'est difficile, parce que quand il y a des vents contraires, on peut être surpris et se dire, mais finalement, je ne voyais pas la vie chrétienne comme cela. Je voyais la vie chrétienne comme, le vent souffle dans ma direction, je me laisse porter par le vent et tout va bien. Ah, des fois, ça ne va pas tout à fait bien. Des fois, il y a des situations qui sont compliquées à gérer. Mais nous avons quand même cette grâce, c'est que la confiance en l'Éternel, c'est une source de bénédiction. Alléluia. On l'a pu expérimenter, hein, je vous l'ai dit, avec, il y a maintenant 2 semaines, le départ pour la patrie céleste de mon papa. Je vous promets qu'il y a vraiment une différence. Quand un être cher part pour le ciel, il y a une espérance. C'est inexplicable. En fait, évidemment, il y a toujours le déchirement, c'est des choses normales, on va dire. Il y a quand même quelque chose au fond de notre cœur que ce n'est pas un adieu. Simplement un au revoir, on va se retrouver, c'est juste le temps que nous passons ici. Et ça, c'est merveilleux de garder toujours confiance en l'Éternel, même si tu vois le contraire. Même si tu es confronté à des grandes difficultés, garde la confiance dans le grand Dieu de l'univers. Amen. Et le résultat donc de tout cela, celui qui est béni, celui qui craint l'Éternel, celui qui a confiance dans ce Dieu merveilleux, donc, et c'est l'image d'un arbre planté près des courants d'eau. Je ne sais pas si vous l'avez l'image, hein, j'espère que vous l'avez, hein, chacun, ça dépend de l'imagination que vous avez. L'arbre planté près des courants d'eau, et il y a une particularité, petit détail, qui nous dit que les racines, elles tendent vers les eaux. En fait, l'arbre a vite compris, et la nature nous parle également, hein, a vite compris que c'est vital pour l'arbre, pour la santé de l'arbre, que de pouvoir, que ses racines puissent aller vers les eaux. Alléluia. Et il y a cette déclaration magistrale qu'a pu faire le Seigneur. Que celui qui a soif vienne à moi. Pas à une religion, pas à un mouvement. Hein. Alors évidemment, on n'a rien contre tout ça. Mais viennent à Jésus. Et quand on vient à Jésus, alors il y a ce sentiment de satisfaction. Nos cœurs assoiffés par certaines choses qui sont légitimes, on essaie de les chercher ici-bas sur terre. Je vous promets, par expérience, et certains seront d'accord avec moi, par expérience, que tout ce que le monde veut nous proposer ne suffira jamais à combler le vide de nos cœurs. Ce qui va combler le vide, c'est la présence de notre Seigneur. Alléluia. Et donc, il étend ses racines vers le courant pour donc être régénéré, pour tirer tous les minéraux, tout ce qu'il a besoin pour sa santé. Et il y a des conséquences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet arbre qui est planté, il est planté au bon endroit, alors il n'aperçoit point la chaleur. Quelle promesse pour chacun d'entre nous. J'ai dit tout à l'heure qu'on peut être confronté à des difficultés, mais il y a une particularité quand on a confiance au Seigneur, quand on est planté au bon endroit, près de la source, alors on n'aperçoit point la chaleur. Et puis, le feuillage reste vert. C'est extraordinaire quand, après des années et des années de conversion, il y a des frères et sœurs qui sont toujours verts. C'est extraordinaire, hein, d'être vert. C'est-à-dire plein de vie, plein de sève. Et c'est merveilleux. Donc, c'est notre responsabilité donc, de rester proche du Seigneur pour que ce feuillage reste vert. Il n'y a rien de plus tragique, justement, quand on voit donc, la nature, certains arbres. Je disais ce matin, c'est à Ben, hein, on discutait de la pluie. Voilà. Et puis, je leur disais que cette semaine, donc, on est parti 2 jours, on est allé voir... pour entourer encore ma mère. Et donc, on a fait un tour dans les Corbières. Et c'est un endroit actuellement qui a cette particularité, c'est que ça fait plus de 2 ou 3 ans où il ne pleut pas, où il ne peut plus. À chaque fois qu'il pleut, c'est 4 gouttes, mais pas assez pour les nappes, pour qu'elles remontent. Et donc, je suis allé à certains endroits voilà, que j'ai toujours connus. C'est une désolation. Tout sec, il n'y a pas de vie. Et c'est exactement pareil pour la marche chrétienne. Des fois, il y a des chrétiens qui sont tout secs, parce qu'ils ne sont plus alimentés par notre Seigneur, qui est celui qui veut étancher, qui veut nous donner la pluie du ciel. Dans la parole, il est dit « la pluie de l'arrière-saison ». Alléluia, il y a une signification. Un jour, sûrement, on partagera sur que veut dire la pluie de l'arrière-saison. Restons verts. Pour rester verts, ben, ce passage nous le dit. Hein. Il faut que les racines soient plongées près de cette source. Alors, il n'a rien à craindre. Souvent, on peut avoir des inquiétudes, on peut avoir des peurs. On sait que le mot hein, pour peur, c'est phobie. On peut avoir certaines phobies qui sont là, des choses, des peurs, paniques. Mais ce passage nous dit que si nos racines donc, vont vers cette source, vers l'eau, alors on n'aura pas de crainte. Il y aura quelque chose qui va consoler nos cœurs, qui va nous faire du bien, la présence de notre Seigneur. Et j'aime beaucoup parce qu'il est dit, il ne cesse de porter du fruit. Encore et toujours. Que Dieu fasse que nos vies portent du fruit à la gloire de notre Seigneur. Vous vous souvenez de cet épisode où Jésus va vouloir, à un moment donné, manger des figues. Il va vouloir manger des figues, et puis ils vont s'apercevoir qu'il n'y a pas de figues, que des feuilles. En fait, c'est un peu comme pour exprimer cette image de l'apparence. Ce que le Seigneur veut, trouver en chacun d'entre nous un fruit. Et non seulement un fruit, mais un fruit en abondance et un fruit qui demeure. Que nous puissions voir les fruits les uns des autres. Et c'est ce qui fait l'abondance, finalement, hein, du peuple de Dieu qui se réunit. Moi, je bénis Dieu quand quelqu'un donc décide de s'engager avec le Seigneur, de donner sa vie à Dieu. Quand on voit les fruits de la conversion, c'est ce qui réjouit nos cœurs, finalement. Je dis, Seigneur, merci pour ce miracle extraordinaire. Tout à l'heure, on a chanté, hein, il est le Dieu des miracles. Je l'ai dit, que le Seigneur est capable de faire quelque chose d'extraordinaire, hein, même de bouleverser ce qui est de l'ordre de la nature. Mais le plus grand de tous les miracles, c'est d'avoir cette révélation de qui est Dieu. C'est de réaliser que le Seigneur nous offre une vie extraordinaire. Amen. Il ne cesse de porter du fruit. Et la mise en pratique pour nous, c'est être au bon endroit, fait toute la différence. Notre responsabilité, c'est de rester près de cette source. Surtout, ne pas se couper de la source. Il y a cette promesse, c'est que tant que nous resterons là, il y aura toujours assez d'eau pour que l'arbre porte du fruit, que Dieu soit béni. Il y a un second un arbre qui est là. On le retrouve dans, à la fin de la Bible. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 22, versets 1 et 2. Jean va avoir cette révélation extraordinaire. Alors, des fois, on aurait tendance à oublier qu'à cette époque-là, il va avoir une révélation, Dieu va lui montrer certains événements qui vont arriver, mais lui, il n'a pas les mots pour pouvoir exprimer ce qu'il est en train de voir. Alors il essaye de le faire, en tout cas une expérience extraordinaire. Il y a ces deux versets, dont Apocalypse 22, la Bible est en train de se terminer. Regardez quelques similitudes avec d'autres passages. « Il me montra un fleuve d'eau de la vie. » Donc cette eau, elle était limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia. Alors ça, c'est les événements futurs, mais en tout cas, il y a toujours cette image pour nous montrer la bénédiction du Seigneur. Avant d'aller plus loin sur ce passage et de commenter ce passage, mettre simplement une mise au point concernant l'Apocalypse. Des fois, on interprète mal ou on emploie mal certains mots. On parle d'événements, par exemple, une tornade. Voilà, c'était apocalyptique, ce que nous avons vécu. Souvent, on l'entend. Hein. En fait, Apocalypse veut dire tout simplement révélation. C'est Dieu, dans sa grâce, qui révèle à l'homme de Dieu les événements qui vont arriver. Et ça, il faut qu'on l'ait donc en tête pour ne pas se tromper, évidemment. Donc, c'est la révélation. La révélation que Jean voit ici, c'est un fleuve. Et il a cette particularité, le fleuve de la vie. Fleuve qui donne la vie. Et encore une fois, cette particularité, c'est qu'il est limpide comme du cristal. Et là, ça nous montre la pureté de l'endroit. Et c'est l'image qu'il n'y a rien de souillé qui peut se trouver dans la présence du Seigneur. Il faut de la pureté. Alors certains essaient de gagner le ciel par leurs efforts. Mais en fait, il n'y a rien d'impur, parce que finalement, on ne peut pas. On est trop. Il y a trop de péché dans nos vies pour pouvoir se présenter devant le Seigneur. Mais le Seigneur a prévu, il a pourvu pour cela. Il a donné son Fils, lui le pur. Il s'est donné pour des impurs. Et par ce biais-là, il nous purifie. Et ce matin, quand nous nous sommes présentés, nous tous, devant le Seigneur nous a regardés comme purs. Ça, c'est merveilleux. Purs. Merci Seigneur pour ce privilège. Alléluia. Donc limpide comme du cristal, la pureté de la ville céleste de Dieu. Et là, dans cet endroit, il sort du trône de Dieu. Regardez, un petit détail qu'on peut trouver banal. Et de l'agneau. Vous savez qui c'est cet agneau? C'est le Seigneur Jésus. Certaines religions doutent de la divinité de Jésus. Pourtant, ici, on le voit. Donc, il sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et quand on parle d'agneau, on parle de sacrifice. Et c'était comme cela, à une certaine époque, que le peuple était agréé. Donc, pouvaient se présenter devant le Seigneur. Et le péché était effacé. Jean-Baptiste va avoir cette révélation quand il va voir Jésus. Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup l'expression qui ôte. Parce que quand on ôte quelque chose, ça sous-entend que ça n'existe plus. Il n'y a plus de condamnation. Donc, il ôte le péché, il extirpe, il arrache le péché dans nos vies et dans nos cœurs. Et encore une fois, le Seigneur nous voit comme purs et il nous voit comme saints. Amen. Merci, Seigneur. Donc, sort du trône de Dieu Et on sait également que l'eau, dans la Bible, une métaphore courante référant au fait pour Dieu de pourvoir abondamment aux besoins spirituels de son peuple. On sait que le Seigneur, jour après jour, il est là, on l'a vu tout à l'heure, il nous bénit, et au travers de l'eau, c'est l'eau en abondance. Ce n'est pas ce fameux filet d'eau qui coule une fois de temps en temps, mais c'est des eaux en abondance. J'aime beaucoup parce qu'il est dit qu'il y a un endroit où l'eau donc, de vie se manifeste, elle est là, c'est au milieu de la place. Et au milieu de la place, ça sous-entend le centre. On a parlé dimanche dernier. Dieu au centre de nos vies. Et si Dieu est au centre de nos vies, une chose est certaine, c'est que nous allons prendre les bonnes décisions. Des fois, sous prétexte de spiritualité, on dit « j'ai cherché le Seigneur », mais derrière, il y avait une motivation qui était simplement humaine. Je suis toujours émerveillé quand certains me disent « Pasteur, voilà, Dieu m'a dit ». Alors merci Seigneur, parce que Dieu encore parle, je le crois plus que jamais. C'est quand même un peu bizarre, parce que le Seigneur, Dieu m'a dit pour les choses qui vont dans notre sens. Jamais Dieu m'a dit pour rectifier quelque chose dans ma vie, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on a l'oreille un peu plus dure en fait. Alors que personne ne se méprenne, si vous n'êtes pas dans ce cas, gloire à Dieu. Mais veillons avec les « Dieu m'a dit ». Il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit dans la volonté de Dieu. Amen. Donc Dieu au centre. Et ici, c'était au milieu de la place. Il se trouve un arbre de vie. Vous ne trouvez pas qu'il y a des similitudes avec le livre de la Genèse ? Tout a commencé avec un arbre. L'arbre de la vie. En fait, la boucle est bouclée. On est en train de terminer la Bible, Genèse, Apocalypse 22. La boucle est bouclée. Donc, on voit l'arbre de vie qui est mentionné dans Genèse 2, chapitre 9. Et sa particularité, encore une fois, il produit 12 fois des fruits. On aimerait tous avoir un arbre comme ça, non ? Chaque mois, un fruit qui est là, Claude serait embarrassé, hein, avec le panier pour aller prendre tous les fruits. Et alors on serait de l'abondance parce qu'on partagerait. Mais ici, c'est ce qui nous montre évidemment, c'est de façon symbolique, parce qu'on sait que... Et c'est là la difficulté aussi dans le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire que souvent c'est très concret, littéral, des fois c'est imagé. Alors pour nous, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, ici, l'image... c'est que le fruit est là constamment. Constamment, le fruit est là. Il n'y a pas de manque de fruits. Et non seulement le fruit, mais les feuilles servent à la guérison. Alors après, dans la réflexion, on s'est dit, mais quand même, ça, ce sont les événements qui vont arriver après. Est-ce qu'il y a encore besoin de guérison ? Alors il y a cette image pour nous tous, que la guérison, ben, elle est toujours là, elle est continuelle, elle est là dans nos cœurs, alléluia. Donc les feuilles servent à la guérison. Et dans un monde complètement renouvelé, harmonieux, c'est ici cette image, il n'y a plus de place pour la tristesse, le deuil et la souffrance. Que Dieu soit béni. Et ceux qui ferment les yeux, ici-bas, quand ils les ouvrent, ils sont donc dans la présence du Seigneur, et donc plus de tristesse, plus de souffrance, plus de douleur. Et il y a même ce passage qui nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui essuiera les larmes de nos yeux. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Hein. Jésus-Christ est également merveilleux. Donc on a vu ces deux arbres, puis il y a un troisième arbre qui est là. C'est l'arbre accueillant. Et là, on fait un petit retour, c'est dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 31 et 32. Alors Jésus, encore une fois, va parler au travers d'images, au travers de paraboles, et il dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, de moutarde, qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes, et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sur ses branches. Si vous lisez la suite, juste avant tout le chapitre 13 de Matthieu, vous allez vous apercevoir que Jésus, il parle beaucoup de royaume de Dieu, de royaume des cieux. Et il donne quelques images, hein, le trésor caché, la perle de grand prix. Quand on lit la parole, c'est ce qu'on voit, pour nous faire comprendre, pour qu'il y ait une comparaison, que nous puissions nous imaginer le royaume de Dieu. Et moi, je bénis Dieu parce que ces choses ne nous ont pas été cachées. Le Seigneur a voulu nous le révéler afin que la foi, l'espérance soit quelque chose de réel, de fort au fond de notre cœur. Alléluia. On s'aperçoit que le royaume de Dieu, il n'est pas là pour attirer les regards. Il vient de façon humble. Dans l'humilité est très, très humble, finalement, ça commence par une petite semence. Et la comparaison ici, hein, ça aurait pu être une autre semence, une des plus petites semences de ce monde. Mais plantée au bon endroit va porter un fruit extraordinaire, parce que la suite nous le dit. Ça commence donc de manière très humble, et cette graine va devenir un arbre. Et là, ici, ça nous parle que dans la graine, il y a tout le potentiel. Potentiel de développement. Aujourd'hui, hein, on est dans le siècle, dans la période du développement personnel. Aujourd'hui, on entend souvent, viens tel que tu es, avec ton potentiel, le Seigneur va l'utiliser pour son royaume. On ne le trouve pas dans la parole de Dieu, ça. Le potentiel, c'est lui qui nous le donne. Il plante une graine au fond de notre cœur qui, notre responsabilité, donc, c'est de l'arroser pour qu'à un moment donné, donc, ça commence petit, et pour qu'à un moment donné, donc, ça devienne un arbre pour accueillir d'autres personnes. Et ça, c'est le cycle de la vie et c'est le cycle de l'Église. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à accueillir ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Que nous soyons prompts, je sais que dans l'Église, hein, on le fait, d'autres ont un peu plus de difficultés, mais que nous ayons les yeux ouverts. En disant, ben, on veut accueillir comme la parole et comme Dieu lui-même nous a accueillis pour qu'on devienne cet arbre. Donc c'est un potentiel de croissance et d'extension. Alléluia. Cela nous rappelle que la portée du royaume de Dieu dépasse les frontières du visible. Petite graine, quelque chose d'insignifiant. Un potentiel énorme. On l'a expérimenté. Hein. Quand on donne au Seigneur du temps, quand on donne de l'argent, on l'a fait tout à l'heure avec nos offrandes, est-ce que quelqu'un pense ce matin que Dieu peut nous être redevable de quoi que ce soit? Jamais de la vie. Alors on ne le fait pas avec un intérêt, mais c'est dans sa nature de nous bénir et de nous restituer. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Oui, les choses qui se passent dans les frontières, donc... de l'invisible. Ce passage nous invite donc également à envisager comment nous pouvons semer également des petites graines de foi. Des fois, ce n'est pas simplement dans un grand champ, c'est là où le Seigneur nous place, par notre façon de vivre, par notre façon de nous exprimer, par notre façon de nous habiller. Très important ça aussi. On donne un témoignage de qui est Dieu, que le Seigneur a bouleversé nos vies, il nous a transformés. Et soyez assurés que chaque graine que vous avez lancée à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, un jour, ça portera du fruit. Je ne sais pas si vous connaissez ce dicton, c'est un dicton mexicain. Alors, ce n'est pas commun. Mexicain qui dit, voilà, il pensait nous enterrer, mais il ne savait pas qu'on était des graines. Alors j'attends que vous puissiez comprendre. Eh oui, hein, parce que la graine était au fond de nous, alléluia, et même s'il nous arrive des difficultés, c'est la graine qui est à l'intérieur qui, à un moment donné, va devenir cet arbre. En sorte, et j'aime beaucoup, hein, encore une fois, l'image, en sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches, la capacité de pouvoir les porter. Regardez encore une fois, similitude des passages dans la parole. Dernier verset de la matinée, c'est l'expression semble être une citation de Daniel. Daniel chapitre 4, le livre de Daniel chapitre 4, versets 11 et 12. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on la voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Alléluia. Vous voyez le parallèle ? Dans la parole de Dieu, ici, on voit que bien avant, le Seigneur a parlé. Et c'est une manière, évidemment, d'affirmer combien le petit grain de moutarde de s'élever finit par devenir ce grand arbre, symbolisant l'étendue du royaume. Et le royaume, il est appelé à s'étendre. Jour après jour. Et ça, c'est notre responsabilité à nous tous. En pratique, n'oublions pas que nous avons été accueillis par le Seigneur. Et à cette image, c'est Jésus qui va donner cette parabole du fils prodigue. Sous l'œil de Dieu, voilà, à un moment donné, on va aller voir ailleurs. Mais sur le retour du fils, il court, il se jette à son cou et pour l'accueillir. Et ce que le Seigneur a fait pour chacune de nos vies. Il nous a accueillis, alléluia, il nous a pris, il nous a serré fort, alors on veut le remercier. Alors vous voyez ici, trois manières d'être planté au bon endroit, au bon moment, pour que nous puissions nous développer. Et frères et sœurs, cherchons à nous développer, pas avec nos propres fruits, je le répète, avec le fruit que le Seigneur dépose dans nos cœurs. Alors, assurément, on portera du fruit. On sera même étonné de l'abondance du fruit qu'on peut apporter. Et on n'aura aucune difficulté à rendre toute la gloire à Dieu, parce que toute la gloire revient à notre Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, encore merci pour ta parole. Ah, cette parole, Seigneur mon Dieu, qui vient, Seigneur, nous percuter, nous bouleverser, Seigneur, mais également nous émerveiller, Seigneur. Oh, nous voulons être, Seigneur, plantés au bon endroit, au bon moment. Seigneur, aide-nous, Seigneur, pour cela, à regarder, Seigneur, où nous sommes, à faire un point, afin que nous puissions porter du fruit. Ce monde a besoin de ce fruit. Ce monde a faim de ce fruit. Seigneur, tu l'as déposé en chacun d'entre nous. Seigneur, fais de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur, ces arbres forts qui apportent la guérison, qui apportent, Seigneur, de quoi rassasier ce monde affamé de choses que toi seul peux donner. Seigneur, nous avons cette responsabilité et nous ne voulons pas faillir. Nous voulons vraiment te demander toute ta grâce. Seigneur, encore une fois, merci. Merci parce que tu nous révèles ton royaume. Tu nous informes, Seigneur, de certaines choses. Alors, nous voulons être attentifs encore à ce que tu veux faire. Seigneur, que dans cette semaine, tu puisses continuer d'utiliser mes frères et sœurs pour ton royaume. Seigneur, au travers du témoignage, au travers, Seigneur mon Dieu, de ce qu'ils sont, Seigneur, et de cette transformation que tu as opérée dans leur cœur, au sein de leur famille, au travail, quand ils côtoient leurs voisins. Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas puissent être interpellés, Seigneur, par ces graines que tu as déposées dans leur cœur. Et nous savons qu'au temps convenable, nous récolterons toutes tes bénédictions. À toi toute la gloire. Merci notre Dieu. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni.